Il était tellement majestueux. À Rome, on n'avait jamais rien vu de pareil.
Monumental.
Sur la première.
Pour le réaliser, Auguste s'est probablement inspiré de la tombe d'Alexandre le Grand.
Il était devenu un des préférés de Jules César. Et il était en fait son petit-neveu.
Les sénateurs lui décernent même le titre d'Auguste, celui dont la parole est sacrée.
Monumental.
Joanne Ducey.
Auguste et l'embellissement de la ville de Rome, c'est la proposition de ce jour dans une réalisation d'Yves Roulin, sans oublier Stéphanie Coudray pour les recherches. Alors il est vrai que l'empereur Auguste a beaucoup œuvré pour transformer la ville éternelle. Nous allons parler de ses actions, du personnage, du mausolée ainsi que de sa maison sur le Palatin. Et nous allons évoquer tout cela avec la complicité d'un invité.
Bonjour, Michel Fuchs, je suis professeur associé en archéologie des provinces romaines à l'Université de Lausanne, où je mène bien sûr enseignement et recherche en particulier autour du monde romain, avec des projets qui gravitent autour du monde romain, particulièrement ces derniers temps autour de Pompéi.
Quand Auguste est-il né et qui sont ses parents ?
Auguste, grand personnage de la Rome antique, est né en 63 avant Jésus-Christ, avec une date que l'on connaît bien, et on va comprendre pourquoi, qui est le 23 septembre. 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, il naît à Rome, sur un endroit qui aura une certaine importance lui aussi, sur le Palatin. Il naît d'une famille qui n'est pas une famille d'ancienne aristocratie. Son père, premier sénateur de la famille des Octavii, Gaius Octavius, va fonctionner comme sénateur bien sûr, mais c'est sa mère qui va avoir une certaine importance puisqu'elle est de la grande famille des Juliens, de Jules César. Elle est la fille de la sœur de Jules César. Donc là aussi, une famille qui aura toute son importance dans l'histoire d'Auguste.
Accueillons le plus jeune consul de toute l'histoire de Rome, Caius Octave César.
Son vrai nom ?
Son vrai nom ? Alors, c'est Octave tant qu'il n'est pas encore arrivé à Rome. Il fait partie de cette famille des Octavii, s'appelle Octave jusqu'en 45 avant Jésus-Christ, date à laquelle il va être adopté comme fils adoptif donc de Jules César, du grand Jules César bien connu. Il s'appelle en fait Caius Octavius Turinus, un nom qui lui est donné par ses ancêtres du côté de son père, et il va de ce nom-là, non pas garder son cognomen, autrement dit son prénom, mais son nom de famille, Octave. Il va garder ce nom jusqu'à son adoption. Au moment de son adoption, il va s'appeler, bien sûr, Julius Caesar. Ce qui va créer une certaine confusion dans les historiens a posteriori, qui vont se dire, mais à partir de 45, comment va-t-on appeler notre personnage ? Est-ce que c'est Octave ? Est-ce que c'est un nouveau César ? Sans doute que lui se faisait appeler César, mais les historiens vont privilégier ce qu'il aurait dû ajouter à sa nomenclature, si l'on peut dire, qui est Octavianus. Et ils vont l'appeler Octavien à partir de 45 avant Jésus-Christ.
Qui est-ce qui dans cette foule a lancé mon nom ? J'entends une voix plus aiguë que les musiques crier César. Parle !
Regarde aussi de te passe !
Casca, c'est toi qui frapperas le premier, tu le sais.
Parle pour moi, mon bras !
Toi aussi, Brutus.
L'assassinat de Jules César.
Alors, ton César.
Liberté ! Nous sommes libres ! Liberté ! Indépendance ! Affranchissement !
Quand et comment devient-il empereur ?
Alors, il devient véritablement empereur. C'est toute une histoire assez intéressante de différentes situations complexes, de guerre civile, d'inimitié et en même temps de raccord avec les personnages autour desquels il gravite. Il devient empereur à partir de 29 avant Jésus-Christ. impérator, un mot impérator qui n'a pas véritablement le sens d'empereur tel qu'il va être défini par la suite. L'impérator dans le monde romain, c'est le général en chef, en quelque sorte. C'est celui à qui on va confier le pouvoir sur les armées. Donc il va devenir empereur tel que cette définition va l'être plus tardivement, en 29 avant Jésus-Christ, et plus fortement encore en 27 avant Jésus-Christ. Ce qui l'amène à ce titre, c'est le fait que tout d'abord, il va être le successeur de Jules César et va réunir autour de lui les personnages qui vont venger la mort de Jules César. En particulier, l'un de ses lieutenants, sénateur, consul important, qui est Marc-Antoine, et avec un autre personnage, Lépidus, lieutenant de César, tout aussi important, ils vont faire ce qu'on a appelé le deuxième triumvirat.
Les combats sont finis, et nous avons gagné. Je crois préférable de continuer le triumvirat. Toi et moi, et Lépide. Ça, c'est parfait. Lépide aura l'Afrique et toutes les îles, toi l'Espagne et la Gaule. Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune à nous trois. Et toi, tout le reste. Alors, avec Lépide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera, ce qu'il semble. Conclu ? Conclu.
Deuxième triumvirat qui va avoir pour lien cette vengeance sur les assassins de Jules César. Toute une série d'éléments à dire autour de cela, mais cela va conduire aussi à des différends avec Marc-Antoine, à qui l'on a confié dans ce triumvirat la partie orientale du monde romain de l'époque, à Octavien la partie occidentale et à Lépide la partie africaine, l'Afrique du Nord actuelle. Et Antoine va se trouver lié à Cléopâtre, une guerre va s'en suivre, une guerre forte entre les troupes liées à Octave, les autres liées à Antoine, et cette guerre va se conclure par une victoire d'Auguste et de ses troupes à un endroit qui va rester l'endroit, je dirais, moteur de son futur, c'est Actium. Actium, on est en Grèce, du côté de l'Adriatique, entre Adriatique et Méditerranée bien sûr, et grâce à cette victoire, celui qui va devenir Auguste va asseoir son pouvoir, son autorité.
Monumental.
L'époque de chaos et de débauche que nous avons endurée s'achève. Rome va redevenir ce qu'elle a été un jour. Une fière république où vivent des femmes vertueuses et des hommes honnêtes.
On dit souvent qu'Auguste, c'est le tout premier empereur ?
Oui, tout premier empereur, du fait, non pas du mot impérator, comme on le disait tout à l'heure, mais du fait qu'il est celui que le Sénat va choisir comme premier parmi les sénateurs. Princeps. Le mot de prince vient précisément de cette situation particulière qu'il va avoir, premier d'entre les sénateurs, Princeps. Et ce premier d'entre les sénateurs va recevoir, 2 ans après avoir été reconnu comme étant celui qui a ramené la paix à Rome et dans tout le monde romain de l'époque, redonnant même toute son autorité au Sénat en 29 avant Jésus-Christ, le Sénat, les sénateurs vont décider de l'appeler très précisément Auguste. C'est là, en 27 avant Jésus-Christ, que le nom d'Auguste lui est attribué et date à laquelle on peut dire que l'Empire se met en place.
Son règne sera assez long.
Oh, il est empereur pendant plus de 40 ans. 41 ans, si on compte depuis 27, 43 ans depuis 29. Donc c'est le règne le plus long que l'on connaisse pour un empereur sous tout l'Empire jusqu'au 3e, 4e siècle.
C'est aussi l'un des plus célèbres.
Oui, parce que fondateur. Et c'est vrai que comme personnage, alors il a joui aussi de situations extrêmement bénéfiques pour tout ce qu'il va pouvoir développer, aussi bien entouré d'architectes de renom, de poètes, d'historiens de renom, C'est véritablement autour de lui que vont graviter aussi toute une série de constructions, et puis les questions aussi de juridiction, établissement de l'organisation même de ce monde romain qui devient l'Empire romain, qui doit beaucoup à ce personnage, qui sans doute n'imaginait pas du tout vivre aussi longtemps, a vécu 77 ans quand même, mais qui grâce à ses 40, plus de 40 ans de règne, va pouvoir véritablement mettre en place ce qu'il avait conçu alors qu'il avait à peine 20 ans.
Auguste avait les yeux vifs et brillants. Il voulait même que l'on crût qu'il tenait de la puissance divine. Quand il regardait fixement, c'était le flatter que de baisser les yeux, comme devant le soleil. Son œil gauche s'affaiblit dans sa vieillesse. Ses dents étaient écartées, petites et inégales, ses cheveux légèrement bouclés et un peu blonds, ses sourcils joints, ses oreilles de moyenne grandeur, son nez aquilin et pointu, son teint entre le brun et le blanc.
Suétone, description d'Auguste. On raconte qu'il a servi de modèle à Charlemagne, Louis XIV, Napoléon.
En un sens, oui. C'est vrai que c'est une question assez particulière que de penser en partie... Commençons par Charlemagne. Il s'appelle Carolus Magnus. On l'appelle Carolus Magnus, pas tout de suite. Vous voyez dans Magnus, Charles le Grand. Donc, est-ce que c'est véritablement Auguste ou est-ce que ça n'est pas, comme c'était le cas pour Auguste lui-même, son modèle Alexandre le Grand, qui était véritablement le modèle d'un Charlemagne. Mais un Charlemagne va se faire appeler, c'est là qu'on voit tout le jeu de la politique, par le pape Léon III, en 800, lorsqu'il est couronné empereur, Serenissimus Augustus. Donc, l'empereur Auguste. Donc, nom donné par Rome, si l'on veut bien, par le pape, à celui qui a pour activité des activités qui sont liées directement à l'organisation d'un empire. Je pense qu'il y a, comme pour Louis XIV, une vision qui est plutôt générale de ce qu'est l'empereur. C'est pas nécessairement Auguste en particulier, mais la notion d'empereur sur les 3, 4, 5 siècles d'empire qui vont être importants. Pour Louis XIV, si on dit qu'il est proche d'Auguste, c'est qu'on le voit en particulier demander des statues où il figure en empereur romain, tenant le bâton de commandement, à côté d'une tête de lion à Versailles. On a cette statue et il va s'inspirer de ce que l'on sait des activités d'Auguste telles qu'elles sont aussi transcrites par les historiens de l'Antiquité. Napoléon devient un peu plus proche. Effectivement, alors lui va plus loin, fait un pas supplémentaire, il va même se portraiturer à la manière des empereurs de ce qu'on appelle l'époque julio-claudienne, c'est-à-dire d'Auguste précisément à Claude, l'empereur Claude. Et il va, ce que va faire d'ailleurs son Napoléon III plus tardivement, être plus proche du point de vue de l'image d'un Jules César que d'un Auguste, mais l'organisation de l'empire napoléonien doit beaucoup à Auguste, effectivement.
Les dieux décideront lequel des deux sera notre chef. Demain, à l'aube, lorsque le feu de résine sera mort, nous compterons les vautours dans le ciel.
Vous vous éloignerez alors l'un de l'autre.
Une seule fois,
à la distance de 5 caps d'arc.
L'impression que toujours tu t'es là.
Celui de vous deux qui comptera le plus de vautours dans le ciel sera le roi, de par la volonté des dieux.
Mais c'est la fin pour moi du chemin de croix, je crois. Romain, remonte un seul jour, amour. Romain, remonte une seule fois, amour. Romain, parle-moi d'amour, parle-moi de toi, remonte une seule fois.
Benjamin Biolay.
C'est un bien beau séjour, bien mérité, je crois. Nous prime cher, mais c'est toi que j'ai dans ma chair. Plus les lambeaux du temps jadis, d'un temps naguère. Romain, remonte un seul jour, amour. Romain, remonte une seule fois, amour. Romain, parle-moi d'amour. Seule fois. en une seule fois. L'impression que toujours tu t'es là. Rends-moi un seul jour, amour. Rends-moi une seule fois, amour. Parle-moi d'amour, amour. Rends-moi une seule fois.
Monumental.
Remonte un seul jour, amour. Remonte une seule fois. Parle-moi d'amour, parle-moi de toi. Remonte une seule fois.
Monumental, Auguste.
Au-delà de ce marais, derrière la montagne de feu, nous découvrirons une vallée, entourée de sept collines, parcourue par un fleuve. Là, nous fonderons une cité et installerons nos foyers pour toujours.
À Rome, Auguste va être à l'origine d'un vaste programme urbain.
Oui, qui va tout à fait dans le sens de ses intentions impériales.
Michel Fuchs, professeur associé en archéologie des provinces romaines à l'Université de Lausanne.
Il va véritablement transformer cette ville, réintervenir sur plusieurs des points de la ville, cette ville aux sept collines certes, mais dans laquelle il va intervenir autant pour y organiser des monuments publics que pour l'organisation de l'habitat de la population. Le fait qu'il soit proche des sénateurs, ce premier des sénateurs, le fait qu'il ait eu tant de victoires va lui permettre aussi de s'installer tout premièrement sur le Palatin, d'y construire sa maison, d'y construire aussi un temple particulier, le temple d'Apollon. Il va intervenir sur le Forum lui-même, qui est quand même le lieu par excellence où vont se réunir les Romains, qu'ils soient sénateurs ou du peuple plébéien. Il va intervenir dans le Champ de Mars, ce Champ de Mars où on avait des grandes zones d'exercice, de course, de jeu. Et lui va intervenir, alors pas nécessairement directement, il va intervenir sur place grâce à un de ses familiers, grand ami, qui est Agrippa. Et grâce à Agrippa, grâce à l'organisation de cet Agrippa, il va intervenir sur le Champ de Mars avec une première chose. On est dans une boucle du Tibre, avec des problèmes d'eau assez importants, d'amener d'eau comme d'évacuation des eaux. Et Agrippa va faire attention à tous ces aspects-là et va de ce fait aussi installer des thermes qui sont les tout premiers thermes de la ville de Rome dans le Champ de Mars.
Agrippa, c'est son gendre ?
C'est devenu son gendre. Il était tout d'abord son ami d'enfance. Ils ont été éduqués ensemble, ils ont eu les mêmes maîtres, avec un autre personnage qui a tout aussi grande importance qu'Agrippa, qui va d'ailleurs laisser son nom à une activité qu'on connaît bien encore aujourd'hui, qui est Mécène. D'origine étrusque, c'est un petit peu le préposé à un ministre de la Culture, si l'on veut bien, d'Auguste. Mais Agrippa, personnage tout à fait intéressant, qui était un Vipsanius Agrippa, son nom de famille était Vipsanius, non pas sorti d'une famille, une grande, grande famille aristocratique non plus, mais qui a été surtout pour un Auguste qui n'était pas nécessairement un bon général, d'où le fait que Jules César lui était souvent préféré par la suite, mais c'est Agrippa. Son fidèle ami est lieutenant au sens véritable, main active, guerrière. C'était lui le soldat, le général, qui a pu intervenir dans plusieurs des conquêtes faites à l'époque d'Auguste.
La beauté de Rome ne répondait pas à la majesté de l'Empire et la ville se trouvait exposée aux inondations et aux incendies. Auguste l'embellit à tel point qu'il put se vanter à bon droit de la laisser en marbre après l'avoir reçue en brique. Quant à la sécurité, il la garantit même pour l'avenir, autant que la prudence humaine put y pourvoir.
Suétone, vie d'Auguste. Auguste, aidé d'Agrippa, vont tout faire pour embellir Rome.
Oui.
L'idée, c'est quoi ? D'en faire une vraie capitale ?
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On a comme grande ville à l'époque antique, Alexandrie, par-dessus tout. La ville d'Alexandre par excellence. On a Athènes, bien évidemment, qui va aussi servir de modèle. On a une autre ville qui va aussi avoir toute son importance du côté du Levant, qui est Antioche. Mais une ville pour les Romains, latine, pour tout ce qui est le côté occident de l'Empire, c'est Rome. Et l'intention que l'on peut lire derrière tous les travaux menés par Agrippa et par Auguste, c'est de faire de Rome le caput mundi, c'est-à-dire la tête véritablement, traduction du caput, la tête du monde, le centre même du monde. Ce qui va être le cas de Rome d'ailleurs à la suite de ses travaux, qui devient une véritable mégalopole pour l'Antiquité.
Depuis des siècles, les thermes font partie intégrante de la vie quotidienne à Rome. Ils s'organisent autour de bains chauds et froids. Mais les bains ne servent pas qu'à se laver. Ils sont un peu comme les bars, où aujourd'hui on se retrouve après le travail. Ils jouent un rôle social très important.
C'est monumental, sur la première. Ils vont construire passablement de monuments,
plusieurs,
en embellir d'autres.
Tout à fait. Ils vont intervenir dans des restaurations, ils vont construire des monuments, ben, les termes d'Agrippa certes, mais le temple qui va précéder le Panthéon dans lequel va intervenir Adrien, l'empereur Adrien, bien c'est Agrippa qui l'installe, toujours dans le Champ de Mars. Auguste va intervenir sur le Forum avec Agrippa aussi pour le temple des Dioscures. Il va faire aussi une chose qu'on connaît peut-être pas suffisamment, mais qui est d'une beauté et en même temps d'un type d'installation tout à fait remarquable et qui assoit justement cet aspect de Caput Mundi de Rome, tout en étant, et c'était un des soucis forts d'Auguste, très fidèle à la tradition romaine. Il fait construire, à côté du forum que Jules César avait mis en place, un forum d'Auguste. Et il le fait en quelque sorte pour marquer la fin de cette vengeance que l'on avait mis, qui avait été mise en place contre les assassins de César, entourant un temple dédié à Mars Ultor, Mars le Vengeur précisément, construisant ce temple perpendiculairement au forum de Jules César, bloquant avec une grande façade de plus de 33 mètres qui est restée très longtemps en place, tout le côté du quartier louche de Rome qui était le quartier de Subur, mais on pouvait y accéder depuis l'aire de son sanctuaire, de ce sanctuaire, de ce temple. Et surtout, chose mais qui illustre parfaitement la manière dont Auguste concevait ces espaces urbains, va non seulement mettre en évidence Mars Ultor, Mars amant de Vénus, mais à l'origine de la famille julienne. La famille julienne descend d'Aînée, qui arrive avec son petit Iulus à Rome. Aînée va aussi être honoré comme ancêtre des Romains dans une des parties de ce forum d'Auguste. Dans une exèdre, lorsqu'on arrive dans le forum, sur la gauche, du côté ouest, on va trouver une grande exèdre, c'est un espace semi-circulaire où va figurer Aînée, fuyant Troie, avec Ascagne et le petit Iule, Ascagne. Démonstration de ce qui est à l'origine de cette grande famille des Iulii, à l'origine de l'Empire finalement. En face, c'est l'autre ancêtre de Rome qui est mis en place avec une statue de Romulus.
4 noirs et 8 blanches. Les dieux en ont décidé. C'est Romulus qui est notre roi.
Sur les côtés, ce qu'on a appelé les soumis viri, autrement dit les grands hommes de l'histoire de Rome, de la République jusqu'à Auguste, qui sont présentés par toute une série de statues autour d'une grande place où figurait Auguste sur un char. Donc, une mise en scène qui est exemplaire par rapport à toutes les constructions qui vont être mises en place à Rome.
Monumental.
Une autre construction sur laquelle on peut assister, et qui elle aussi a toute son importance, c'est le théâtre de Marcellus. Théâtre qui avait été commencé par son père, adoptif par Jules César, proche du Tibre, dans une zone forte, puisqu'on est à l'entrée où l'histoire raconte qu'Hercule est arrivé avec les bœufs de Gérion pour fonder Rome. On est à proximité d'un temple ancien du 5e siècle, dédié à Apollon précisément, et à côté de cela, Jules César avait prévu un grand théâtre. Auguste le termine. le termine de telle manière à faire de lui le plus grand théâtre et le premier théâtre véritablement monumental de Rome, permettant l'installation de 20 000 spectateurs avec tout un jeu architectural sur les façades extrêmement bien pensé, jouant sur les différents ordres des colonnes pour pouvoir montrer l'élévation à laquelle on peut arriver grâce à un théâtre comme celui-ci. Théâtre qui va être appelé le théâtre de Marcellus, Marcellus étant le nom de son neveu qui était promis à sa succession dans un premier temps. Une chose aussi qui donne toute l'importance de ce que l'on sait sur les constructions d'Auguste, c'est le fait qu'à la fin de sa vie, Auguste, qui se destinait à être orateur au départ, Auguste a eu cette conscience de noter tous les travaux et les activités qu'il avait fait pendant tout son règne. Et il a, de ce fait-là, remis, au moment de sa mort, des volumina, autrement dit des textes en rouleau, sur lesquels étaient décrites toutes ses activités, et en particulier, dans le deuxième rouleau, toutes les activités de construction qu'il avait faites pour l'Empire et à Rome même, qui étaient appelées les res gestae divi Augusti, les travaux accomplis par Auguste devenu divus, devenu divin.
C'est une espèce d'inventaire.
Un inventaire, exactement. Inventaire aussi bien des lois, des traités, des éléments auxquels il a participé, et surtout, ce qui est précieux, en particulier pour l'archéologie et l'histoire de l'architecture, tous les bâtiments auxquels il a participé à Rome comme dans le reste de l'Empire.
Auguste, à Rome, il souhaite amener du marbre sur certains monuments existants.
Oui, tout à fait.
C'est le prestige ?
C'est le prestige. Le marbre reste, depuis la Grèce classique et même antérieurement, la pierre noble par excellence. On connaît ce mot précisément au moment de la mort d'Auguste, attribué au moment de sa mort.
Michel Fuchs, cette phrase d'Auguste, c'est la suivante. « J'ai trouvé une Rome de briques. » J'ai laissé une Rome de marbre.
Et c'est véritablement ça. Et avec cela, il y a une chose qu'il faut aussi retenir de chez Auguste, c'est qu'il a développé non seulement l'acquisition de marbre sur tout le pourtour méditerranéen, marbre aussi des îles comme Paros, qui va être beaucoup utilisé, mais il va surtout développer une carrière qui est encore toujours active aujourd'hui, qui est la carrière des marbres de Carrare, qui va être véritablement la source de toute une série de productions pour les grands bâtiments publics à Rome et dans toute l'Italie et plus loin encore.
Un grand monticule près de la rivière sur une haute base de pierre blanche, couvert jusqu'au sommet d'arbres sempervirants. Sur le sommet est le simulacre de bronze d'Auguste. Et sous le tumulus sont les sépultures de lui, des parents. Derrière, il y a une grande forêt avec de magnifiques promenades.
L'historien Strabon. Dans la zone du Champ de Mars, il va faire construire un mausolée. Il était comment, ce monument ?
Alors, ce monument, c'est un monument alors qu'il y a une histoire tout à fait particulière. On est donc au Champ de Mars, on est tout au bout du Champ de Mars, au nord, en direction du nord. Et ce monument était circulaire, essentiellement. Et il était circulaire de telle manière qu'il occupait un espace de 89, 90 mètres, autrement dit 300 pieds romains, énorme. Énorme, et il était fait de telle manière que toute la partie basse, on en parlait de marbre, était couverte de marbre, avec une décoration en frise qui reflétait le monde ancien, décoration qu'on dit dorique, avec ce qu'on appelle des métopes et des triglyphes, comme on en voit sur le Parthénon, par exemple. Et au-dessus de cette partie de marbre, on voyait une zone de jardin qui était mise en place avec différents arbres particuliers. Et arrivé plus au centre encore, on avait un élément circulaire encore surmonté d'une couverture, d'une toiture, et surmonté tout au bout pour atteindre 45 mètres de hauteur de la statue en bronze de format gigantesque.
Doré, bronze doré
d'Auguste.
Ce pilier central, dont on voit quelques restes fragiles, constituait la colonne qui supportait la statue de l'empereur à 45 mètres de haut.
Archives France 24.
C'était un monument véritablement exemplaire, mais qui a son histoire, elle aussi, du point de vue de son organisation et du point de vue de ses modèles.
L'inspiration.
Quelle est l'inspiration qu'il y a derrière un monument comme celui-ci ? On a beaucoup discuté du comment on en est arrivé à un tel élément. Certains vont dire, c'est Auguste qui décide. On sait qu'il a été lancé en 29 avant Jésus-Christ. Auguste a vaincu Marc-Antoine du côté de l'Égypte. Il veut montrer toute la tradition romaine. Il va s'inspirer des tumuli, donc de ces tombeaux circulaires qu'on connaît par ailleurs des Étrusques, pour pouvoir asseoir une certaine vision italique, romaine, de son pouvoir. D'autres vont dire, et l'idée est tout à fait intéressante, mais non. En fait, il veut plutôt reprendre précisément celui qui était son modèle et qui va être le modèle de plusieurs empereurs, le tombeau d'Alexandre à Alexandrie, qu'il avait visité, on le sait, par les textes d'auteurs, d'historiens, biographes d'Auguste, Suétone en particulier. Donc, il est allé visiter le tombeau d'Alexandre, l'idée étant probablement de faire autant sinon mieux qu'Alexandre. C'est vraiment un gigantesque monument. Et troisième point, ce monument est appelé très tôt mausoleus, le mausolée. Et mausolée, dans la tradition alexandrine, depuis le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est un bâtiment que l'on connaît encore, malheureusement fortement détruit aujourd'hui, qui est le mausolée d'Halicarnasse.
Une des sept merveilles du monde antique.
Exactement. Qui fait lui aussi 45 mètres de haut, tiens. Même hauteur que le mausolée d'Auguste. Et qui reste le modèle et qui va finir par donner son nom à toute une série de tombeaux de ce type dans l'Antiquité. Alors, l'idée, je pense, c'est de dire qu'il y a un peu de tous ces éléments-là qui interviennent. C'est-à-dire la référence au monde étrusque, la référence à Alexandrie, et peut-être aussi le fait qu'à Rome, Auguste installe un mausolée comme celui-ci pour être plus beau et plus fort encore que celui qu'avaient conçu Marc-Antoine et Cléopâtre à Alexandrie.
Monumental. Auguste, avec Michel Fuchs, professeur à l'Université de Lausanne.
Augusto, signorina, Augusto.
Auguste, mademoiselle, rendez-vous compte, l'empereur Auguste.
C'est un des monuments les plus importants de Rome, le mausolée d'Auguste. Clairement, il faut le voir.
C'était l'un des monuments les plus importants de l'Antiquité, ce mausolée d'Auguste. Mais au fil des ans, il va avoir différentes fonctions.
Oui, alors c'est vrai qu'il va changer de fonction, mais pas tout de suite. Il va être quand même, pendant tout le 1er siècle, et même jusqu'au 3e siècle, un monument funéraire, précisément adapté à y mettre, présenter les cendres des empereurs et des membres de la famille. Surtout ceux du 1er siècle, on va y trouver... À la mort de Livy, son épouse, on va y trouver en 29 après Jésus-Christ, on va y trouver tous ceux qui ont gravité autour d'Auguste et de Tibère dans les premières années. Claude y est certainement enterré, enseveli. On va trouver encore toute une partie de ces gens, sauf deux personnes. Alors expressément, là on sait qu'elles n'y sont pas, parce que les textes nous le disent, Néron et la fille qui a une vie un petit peu particulière d'après les documents qu'on a, sa fille Julie, sa première épouse, plutôt seconde épouse, mais avant Livy. Vespasien y est probablement enterré quelque temps avant d'être déplacé par son deuxième fils Domitien, et là aussi avec une signification forte, Iulia Domna, la femme de Septime Sévère, grande femme de lettres qui avait pour modèle Livy précisément, et qui va être enterrée dans ce bâtiment-là. Ce mausolée-là. Après, c'est le mausolée d'Adrien qui va prendre la succession. Mais au cours des ans, il va être pris comme bâtiment de forteresse au XIIe siècle. C'est la grande famille des Colonna qui va en être le propriétaire. Donc, forteresse, ces Colonna, dont on connaît une galerie à Colonna que je vous recommande à Rome, près de la Piazza Venezia. Colonna qui vont plus tard, au XIIIe siècle, être écartés de cette forteresse pour donner plus de force au Vatican et à la papauté par Grégoire 13, sauf erreur. Et ensuite de cela, Renaissance oblige, on redécouvre les textes antiques. Et on va, à ce moment-là, faire de ce bâtiment un tout autre élément. On va en faire un jardin. Et c'est Suétone qui nous donne ces éléments-là. On en fait un jardin italien. Vers le milieu du XVIIIe siècle, c'est un autre personnage qui intervient, un marquis, Marquis Correa, qui va décider d'en faire toute autre chose. Ça va être un amphithéâtre de Correa, amphithéâtre Correa, où on va faire des combats de bœufs, vaches, etc., sorte de corrida à l'espagnol qui va se mettre en place à l'intérieur de ce monument, dont on a évidé petit à petit le centre pour pouvoir mettre en place ces combats. Il va même se transformer au XIXe siècle en auditorium, lieu de concert pour la musique. Et c'est en 1936 qu'on va voir un changement important dû à Mussolini. Mussolini qui va vouloir revenir aux bases même de l'Empire. Alors Mussolini, lui, sans aucune hésitation, son modèle, c'est Auguste. Et il cherche partout dans les constructions autour de Rome jusqu'à Ostie à retrouver le niveau d'Auguste, le niveau qu'on peut attribuer à l'époque d'Auguste. Et c'est ce qu'il va faire pour, un peu violemment je dirais, pour le mausolée d'Auguste, puisqu'il va vouloir en 2 ans absolument dégager complètement ce mausolée pour retrouver son statut le plus original possible. Jusqu'à, et ça va avoir une importance dans toute l'histoire de la région, proposer une inauguration du mausolée retrouvé, qui va être faite en même temps qu'un autre monument qui a extrêmement une importance tout aussi forte, sinon plus encore pour l'époque augustéenne, qui est l'Hôtel de la Paix, qui était construit à proximité, et ce qu'on a appelé l'horologium Augusti, l'horloge augustéenne, une immense horloge de plus de 150 mètres de cadran, celle qui a son obélisque au Monte Citorio, à l'endroit du Parlement actuel italien. Eh bien, ces trois monuments vont être inaugurés en même temps, en 9 avant Jésus-Christ, le 30 janvier, date anniversaire de Livy. Donc, il y a là tout un jeu qui se met en place avec un Mussolini qui met en évidence, qui va même construire celle qu'on appelle toujours la place d'Augustin Empereur, autour de telle manière à mettre en évidence ce monument, déplaçant l'Hôtel de la Paix à proximité du Tibre, à côté du mausolée.
Il y a eu différents travaux depuis sur ce mausolée.
Alors oui, différents travaux de restauration, de conservation, mais les plus forts ont été menés à partir de 2007, où on a vu tout ce mausolée qui était devenu un petit peu un lieu achat, je dirais. J'ai le souvenir de balades autour du mausolée. C'était essentiellement les chats qui l'investissaient plutôt que les touristes ou les visiteurs un peu qui avaient envie d'en savoir plus sur Auguste. Mais depuis 2007, toute une série de phases de restauration ont été mises en place pour redonner à ce monument ce qui faisait sa valeur dans l'Antiquité. C'était sans doute un des monuments les plus visités, les plus connus de Rome jusqu'à l'Antiquité tardive.
Et on peut le visiter aujourd'hui?
Alors, on peut le visiter aujourd'hui. Alors, le contexte actuel fait qu'il faut s'y prendre suffisamment à l'avance.
Réserver
2 à 3 semaines à l'avance. C'est ouvert jusqu'à la tramontana, comme disent les Italiens pendant les saisons jusqu'en automne. Donc, on peut le visiter tout à fait, découvrir son intérieur, qui, malheureusement, ne reflète pas du tout la splendeur de ce qu'était ce monument. Mais je dirais que le fait d'avoir la possibilité de jouer sur la 3D en particulier, sur des restitutions faites à l'aide de ce que l'on connaît, des compléments architecturaux, lui donne vraiment quelque chose d'intéressant à visiter.
C'est monumental.
Et c'est sur la première.
Start, but I planted listen to me, honey, now. How would Romeo feel if his Juliet had turned down his advances and played hard to get? He wouldn't have let this bother him, this I know, because where there's life, there's hope.
Aujourd'hui dans Monumental,
Auguste et l'embellissement de Rome, avec Michel Fuchs, professeur à l'Université de Lausanne.
Rome, 14e année de notre ère. Dans son palais, le vieil empereur de 75 ans vit ses dernières heures. Commencé dans la violence des guerres civiles, son long règne de 40 ans a assisté à l'explosion de l'art, des sciences et de l'architecture. La cité éternelle, capitale d'Empire, a été en grande partie rebâtie et enrichie de nouveaux bâtiments prestigieux. Auguste a hérité d'une ville de briques, il l'a laissée de marbre.
Le Mont Palatin, on l'a déjà évoqué, hein, c'est une des sept collines de Rome, c'est un lieu important, Auguste y est né, et c'est là qu'il fera construire un temple dédié à Apollon.
Oui. Temple dédié à Apollon, du fait que Apollon est vraiment son dieu protecteur par excellence. Tiens, autre élément à mettre en lien avec Louis XIV, qui s'appelle le roi soleil, et pas pour rien non plus. C'est ce même jeu autour d'un Apollon, dieu solaire par excellence, qui est mis en place. Apollon protecteur d'Auguste, qui va être celui, et c'est toute la propagande qu'il va utiliser aussi autour de cet événement, celui qui va lui permettre la victoire d'Axium, celle qui est la victoire fondatrice de son empire. Mais s'il a, on sait, conçu cette présence d'Apollon en fonction aussi d'une présence particulière qu'il a sur le Palatin. Ce Palatin qui est une colline où vont s'installer les gens de la noblesse romaine. C'est l'aristocratie républicaine qui va s'installer. On a un Cicéron qui est au pied du Palatin, dans les contrebas en direction du Forum. On a différents autres grands orateurs et noms de la République qui s'y installent. Auguste, dès les années 40 avant, va s'installer dans une maison qui avait appartenu à un grand orateur, Hortensius. Sueton, l'historien plus tardif, nous dit qu'il y vivait très modestement. C'est plus Agrippa qui aimait le luxe. Auguste y vivait très modestement dans un espace relativement restreint. Lorsque l'on connaît un petit peu ce qu'est cette maison, c'est peut-être pas si modeste que cela. Mais toujours est-il qu'il va, dès la victoire sur Axium, concevoir un temple gigantesque dédié à Apollon. Temple qui va être lui aussi un temple d'une qualité esthétique et architecturale tout à fait fascinante, avec un immense portique sur les côtés, parallèle au Cirque Maxime, qui est juste en dessous de la zone de ces palais du Palatin, et qui va, par exemple, recevoir toute une série de statues, les statues des Danaïdes en bronze qui vont figurer dans ces portiques. Auguste va y installer des bibliothèques, une bibliothèque latine, une bibliothèque grecque. Il va y réunir régulièrement le Sénat, au point que, lorsqu'on va parler de la maison d'Auguste, c'est quasiment aussi la maison d'Apollon. Les deux vont être, en quelque sorte, mêlés d'autant plus à la mort d'Auguste, qui va devenir le Divus Augustus, l'Auguste divinisé.
Auguste habita d'abord près du Forum, au-dessus de l'escalier des Orfèvres, dans une maison qui avait appartenu à Calus, avant de s'installer sur le mont Palatin, dans une maison qui avait appartenu à Hortensius, une maison modeste qui ne se distinguait ni par l'ampleur, ni par le faste, car les colonnes des portiques étaient en pierre, et dans les pièces, on ne voyait ni marbre rare, ni mosaïque précieuse. Pendant 40 ans, il dormit dans la même chambre, été comme hiver. Lorsqu'il avait quelque affaire secrète à traiter, ou qu'il voulait travailler sans être interrompu, il allait s'enfermer tout en haut de sa maison, dans un cabinet qu'il appelait Syracuse.
Suétone.
Cette maison d'Auguste, vous le disiez, certains disent que c'était modeste. Dans d'autres textes, on y apprend que c'était luxueux. Ça veut dire quoi? Que la maison, elle a peut-être évolué au cours des ans?
Elle a évolué, certainement. Les éléments qu'on en a sont assez, non pas difficiles, mais nous montrent qu'on est encore avec Auguste dans une organisation qui va prendre en compte les différentes maisons de l'époque républicaine qu'il acquiert petit à petit pour organiser la surface à proximité du temple d'Apollon, justement. Et ce qu'on peut véritablement attribuer à Auguste, grâce aussi au rapport au texte, c'est vrai que ça n'est pas une maison de grande ampleur. On a, par exemple, à Pompéi, qui sont des maisons qui sont bien plus grandes que celle-ci. On a une zone avec une pièce centrale, type triclinium, salle, grande salle à manger, des pièces un peu plus petites sur les côtés, une zone de cour intérieure, un couloir sur le côté à partir duquel une rampe va être installée qui devait permettre d'accéder au temple d'Apollon. Mais ce qui fait l'intérêt de cet espace, c'est qu'on y a des peintures.
Des fresques
d'une qualité tout à fait étonnante, et dans le style, et dans le discours qu'elle propose, le programme qu'elle propose, montrant par là ce qu'a choisi Auguste comme décor finalement. Il a dû faire appel à des grands peintres pour avoir de telles peintures, peintures d'une qualité aussi exceptionnelle que celle qu'Agrippa va faire dans ses propres maisons.
Ces fresques, elles sont extrêmement bien conservées.
Oui, dans un état tout à fait exceptionnel, du fait que, d'une part, elles n'ont pas été touchées depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Elles ont été fouillées à partir des années 50-60. Et surtout, parce que le tout avait été complètement remblayé pour pouvoir réorganiser l'espace à partir du successeur d'Auguste, Tibère, et de Néron. Tous les éléments ont été réorganisés régulièrement pour arriver à ce qui a fini par être, sur pratiquement l'ensemble de ce palatin, véritable palais impérial.
Donc de grands travaux de déblaiement pour retrouver la structure architecturale de cette maison d'Auguste.
Tout à fait, dans la mesure où effectivement on ne connaissait que les éléments qui se trouvaient en surface et pas du tout les éléments sous-jacents. Actuellement, lorsque l'on peut visiter ces installations, eh bien on descend sous la zone de circulation qui va être celle adoptée par le palais que met en place Domitien. Donc on descend véritablement comme dans, j'allais dire des catacombes, c'est presque ça, dans les bâtiments que l'on peut mettre en relation avec Auguste.
Monumental.
Une maison que l'on visite également aujourd'hui, qui vient de réouvrir.
Tout à fait, que l'on visite alors avec les mêmes précautions que pour le mausolée, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre suffisamment tôt à l'avance pour pouvoir la visiter, pour obtenir le permis d'y entrer. Depuis, c'est le Parco Archeologico del Colosseo qui s'en occupe actuellement. Et là aussi, il faut faire en sorte de pouvoir obtenir cette entrée.
On a fait le focus sur quelques-uns des monuments, soit érigés, soit restaurés par Auguste. Mais son apport pour la ville de Rome, il est immense.
Immense, oui. Alors, c'est pas seulement les monuments, mais c'est aussi
la vie quotidienne.
La vie quotidienne, la manière de fonctionner à travers Rome. Ben, par exemple, c'est lui qui fait en sorte que Rome soit divisée en régions. Elle est devenue tellement énorme qu'il faut l'organiser de telle manière qu'on puisse, à différents endroits, avoir des autorités locales, des secteurs, des quartiers qui se réunissent sous une autorité particulière au sein de ces régiones, de ces régions. Il va faire en sorte, là aussi très subtil, ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'Empire, surtout l'Occident, il va remettre en évidence le culte au lard des carrefours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire en sorte que ces divinités, qui sont plutôt des divinités domestiques, sont honorées dans tous les carrefours du monde romain bien sûr, et de ce fait-là vont être mises en relation avec ce Caput Mundi, là où il y a installation d'un milliard d'or, qui est le centre à partir duquel on va calculer toutes les voies et les distances depuis Rome et en direction de Rome.
C'est sous la protection de ce héros, mon fils, que l'illustre Rome portera son empire sur toute la terre et que sa valeur atteindra celle de l'Olympe. Maintenant, tourne les yeux de ce côté, vois cette nation. Ce sont tes Romains. Voici le héros, Auguste César, né d'un dieu. Il créera un nouveau siècle d'or dans le Latium.
Virgile.
En conclusion, Auguste, un personnage à découvrir.
Ah, complètement.
C'est infini. Hein.
C'est infini. C'est un personnage d'une richesse invraisemblable. Alors, je parle de richesse. Il y a aussi d'autres aspects qu'on pourrait encore évoquer par rapport au personnage, qui est tout cet art, non seulement figuré, mais de la littérature qu'il a mis en place. Que ce soit Tibulle, que ce soit Properce, que ce soit Horace, que ce soit Virgile, eh bien, il gravite autour d'Auguste, précisément. De Mécènes, bien sûr, mais et ces personnages-là ont un contact avec un personnage qui a eu trois phrases qui sont restées célèbres. C'est peut-être ça qu'il faudrait citer encore par rapport à un Auguste. Par rapport à la richesse, il avait ce soin qui fait qu'il disait « Mais ceux qui ne payent pas, ils vont nous payer aux calendes grecques. » C'est à lui qu'on doit cette expression-là. Les calendes grecques étant des jours qui n'existent pas. Autrement dit, on a affaire à de mauvais payeurs. Très conscience de cet aspect-là. Et autre chose qui permettra peut-être de découvrir encore mieux Auguste, eh bien c'est un des mots qui lui est attribué à l'origine d'un jeu bien connu de nous tous, que j'ai joué enfant, « Hâte-toi lentement ».
C'est quoi ce jeu? Je ne connais pas.
En fait, c'est un jeu qui est l'équivalent d'un jeu de loi, avec des pions, et on joue au dé, et on fait déplacer nos pions pour pouvoir prendre tel et tel pion. C'est le jeu de loi, quoi, véritablement.
Michel Fuchs, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Monumental pour nous parler d'Auguste et de ses deux monuments emblématiques, à savoir le mausolée et la maison d'Auguste. Merci beaucoup.
Merci.
Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation.
Adriano Celentano.
Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché. Tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle station, oh, sulle
station.
Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
L'empereur Auguste et l'embellissement de la ville de Rome, c'était l'émission de ce jour, disponible comme toujours à la réécoute sur la page de Monumental. Dans le prochain numéro, nous partirons aux États-Unis à la découverte de la ville de Memphis.
Pour des millions d'Américains, Memphis n'évoque pourtant que Bill Street, la rue où le jazz régnait en maître et où sont nés les blues. C'est ici que fut composé l'un des plus fameux airs de jazz, les Memphis Blues.
Memphis, c'est notre prochaine escale.
Monumental, Joanne Ducet.
Avec aujourd'hui Stéphanie Coudray aux recherches, Bastien Arnold à la programmation musicale, sans oublier Yves Roulin pour la réalisation de cette émission, toute l'équipe vous souhaite une bonne suite de journée à l'écoute de nos programmes. Il est 15h.